Bonsoir frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans le livre de Ruth au chapitre 1er. Nous lisons Ruth chapitre 1er verset 1er. Ruth après les juges. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. C'est un texte, je pense, que nous connaissons, que nous avons sûrement déjà médité, lu, relu, qui nous a déjà interpellés. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse, au travers de ce texte, voir, comme nous l'avons chanté dans ce dernier chant, en son temps, la notion de temps, la notion de ce que Dieu prévoit dans notre vie par rapport aux différentes épreuves que nous pouvons traverser. Ce livre de Ruth commence d'une manière précise, en disant du temps des juges. On comprend donc que cette histoire se déroule en même temps que le livre des juges, qui est le livre juste avant, cette même période historique du peuple d'Israël. Et si l'on comprend au travers de ces mots qui expriment que le Saint-Esprit a voulu mettre dans le Saint-Livre pour que nous puissions avoir cette notion de temps, cette notion temporelle par rapport à ce livre, ça nous renvoie inévitablement à la notion de temps que le Seigneur a pour nous dans l'accomplissement de ses promesses. La Bible, à de nombreuses reprises, fait mention du temps. On le sait, le temps fixé, au temps marqué. Le temps de Dieu est ainsi nommé, dit, écrit, pour que nous puissions voir, comprendre que Dieu reste souverain dans tout ce qu'il se passe. C'est ce que nous avons chanté, et ce chant exprime cela, en son temps. Et nous comprenons, parce que c'est ce que nous vivons au quotidien, que nous n'avons pas tout, tout de suite. Et qu'au travers de ce que nous pouvons lire, nous apprenons comment Dieu fonctionne avec nous, avec l'être humain, et au travers de ce que nous pouvons vivre, nous voyons qu'il n'y a pas de décalage, puisque Dieu est toujours le même. Il y a des temps marqués, des temps où Dieu agit, il y a des temps fixés où nous voyons le Seigneur agir d'une manière extraordinaire, mais il y a des temps aussi où rien ne se passe, où il semblerait que rien ne se passe, où il semblerait que Dieu attend. Ou peut-être qu'il serait plus juste ce soir de dire où il semblerait que Dieu nous attend. On ne sait pas, des fois, ce n'est pas facile. Toujours est-il que lorsque nous lisons du temps des juges, on comprend que cette période des juges était importante et qu'il fallait que, lorsque nous lisions le livre de Ruth, nous puissions replacer ce récit dans ce contexte. Vous savez, le Saint-Esprit va donner des phrases pour résumer le livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà ce qui peut résumer le livre des juges, et on pourrait lire peut-être, pour aller un petit peu plus loin, on pourrait lire Juges chapitre 2, pour que nous puissions comprendre quand même. Ce n'est pas pour but de résumer le livre des juges, bien évidemment. Juges chapitre 2, verset 16. Versets 16 et 17, par exemple, il est écrit « L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les pillaient, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. » Le verset 19 nous dit « À la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. » Voilà le livre des juges. Et bien évidemment, dans le livre des juges, ce n'est pas ça le thème du message, mais vous allez voir que c'est quand même lié, la notion du temps, parce que même si nous voyons Dieu, l'Éternel, accomplir des miracles extraordinaires, des délivrances extraordinaires, le livre des juges, c'est un livre où nous voyons également la noirceur du cœur de l'homme sans Dieu. La noirceur du cœur de l'homme qui s'éloigne, qui se détourne de Dieu. C'est un livre où on voit la dissolution de l'homme. C'est un livre où nous voyons des meurtres, des viols, causés non pas par des païens, mais par des hommes qui ont connu le Seigneur, qui ont eu cette connaissance de Dieu. C'est un livre où nous voyons des pasteurs mélanger le spirituel et le charnel, des pasteurs se vendre aux plus offrants. Le livre des juges, c'est un livre particulier. Pourquoi parler du livre des juges? Parce que, voyez-vous, c'est dans ce contexte d'apostasie totale, dans ce contexte de rejet de spiritualité, dans ce contexte où le peuple qui était élu de Dieu s'est positionné contre Dieu d'une manière flagrante, d'une manière décisive. Le peuple qui avait connu Dieu et contre lui maintenant, la moralité n'existait plus. Le peuple est allé dans le péché, l'apostasie était là. C'est dans ce contexte précis que Ruth, que Naomi vont être bénies. Ce n'est pas dans un contexte de réveil spirituel. Ce n'est pas dans un contexte où le Saint-Esprit était répandu. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas faire le parallèle avec la période que nous vivons aujourd'hui. Parce que, laissez-moi vous dire, et vous le savez, que nous vivons un temps d'apostasie, nous vivons des temps compliqués, nous vivons des moments où nous voyons, et des prières se sont élevées ainsi, des églises prendre une mauvaise direction, des chrétiens s'engager faire une belle confession de foi, prendre les eaux du baptême et quelque temps plus tard s'en aller, retourner vers le monde, refuser Dieu. Nous vivons une période comme on pourrait dire la période des juges où chacun fait ce qui lui semble bon. Et frères et sœurs, ce soir, c'est un message simple, mais c'est un message qui veut dire, qui exprime cette même pensée, c'est que peu importe le temps où nous vivons, peu importe ce que nous pouvons voir, peu importe les circonstances, peu importe ce que nous entendons, ce que nous lisons à droite et à gauche, ce qui compte, la réalité qui demeurera toujours la même, c'est que si nous sommes fidèles, si nous nous attachons à Dieu et à sa parole, alors Dieu veut et pourra nous bénir. C'était pas évident pour Naomi, qui a perdu son mari, qui a perdu ses fils. C'était pas évident pour Ruth, c'était pas évident pour Orpa. Orpa a choisi un autre chemin. C'était un contexte qui, a priori, était difficile, délicat. On pourrait dire aujourd'hui, c'était mal parti. Mais ce que Dieu regarde, ce n'est pas tant le commencement, mais la finalité d'une chose. Et la finalité, elle est glorieuse. On peut vivre des temps compliqués. On peut passer par des épreuves, par des tempêtes. Les nuages peuvent essayer de couvrir notre vie spirituelle. Ce n'est pas ça qui doit demeurer et qui doit venir marquer notre vie, notre marche chrétienne. C'est notre attachement à Dieu. Il y a un temps fixé. Il y a un temps marqué où Dieu veut agir, où Dieu veut se manifester. Qu'on soit au courant ou qu'on l'ignore, qu'on en ait conscience ou qu'on ait omis certaines choses, c'est la réalité spirituelle. Pour Naomi, pour elle, ça a été difficile. Elle va même se changer son propre nom, son identité. Tellement la souffrance a marqué sa vie. Tellement son quotidien a été bouleversé. Ça sera plus celle, la gracieuse, celle qui était au bénéfice de la grâce, celle qu'on aimait, ça va être Mara, celle qui est remplie d'amertume. Elle va changer son identité parce que pour elle, le Seigneur l'avait abandonnée. On est tous passés par là. On a tous traversé des épreuves. On a tous été, pour peut-être faire le lien avec les messages qui ont été adressés ces quelques semaines, on a tous été dans l'adversité, et dans l'adversité, dans l'épreuve, on a tous ce même réflexe de dire « mais ma vie n'est plus celle que j'espérais, n'est plus celle que j'attendais ». On a tous tenté de changer notre nom, notre identité. Je suis plus chrétien, je suis autre chose parce que c'est trop difficile. Mais ce texte, ce récit, ce livre inspiré par le Saint-Esprit nous révèle et vient marquer davantage cette réalité extraordinaire. C'est que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que nos yeux sont en train de voir, de contempler, Dieu est là. Dieu agit. Dieu veut se manifester. Parce que s'il y a un temps où, a priori, il semblerait que rien ne se passe, il y a quand même des temps marqués où Dieu veut répandre la bénédiction. Ce psaume vient comme pour sceller ces paroles. Le psaume 102 au verset 14, je le lis pour vous. « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. » Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Il est beau ce verset. Hein. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Et dans ce livre, on voit que pour Dieu, ça a été le temps fixé, le temps d'avoir pitié et compassion de Ruth, de Naomi. Ce temps qui est fixé, qui arrive au terme pour que Dieu manifeste son amour, manifeste sa bénédiction, pour qu'il y ait quelque chose de glorieux qui se passe. Et frères et sœurs, je pense que dans l'état actuel que nous vivons, que dans ce que nous pouvons voir dans nos propres familles, autour de nous, dans les églises, il y a quand même, si nous désirons obéir, si nous désirons faire ce que Ruth va faire, il y a quand même un temps fixé où le Seigneur va continuer d'avoir pitié de son peuple pour le bénir. Ruth va s'attacher à Naomi. Orpa, elle va prendre un autre chemin. On connaît ses textes. Orpa va même retourner vers ses dieux. Ruth, elle, va saisir, il va se passer quelque chose dans son cœur. Elle va s'attacher à Naomi, mais elle sait très bien, c'est pas le hasard, c'est pas la chance. Elle sait très bien que pour elle, s'attacher à Naomi, c'est s'attacher à son Dieu. Mais le choix a été fait dans son cœur. Il y a des temps difficiles, on le sait et on le répétera, des temps où il semblerait que Dieu ne veut pas répondre. Mais dans ces temps-là, frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur. Restons attachés à l'œuvre de Christ. Comprenons l'œuvre de la croix, que ce n'est pas une œuvre uniquement qui s'inscrit à un moment donné dans le temps, mais c'est une œuvre continue, c'est une œuvre qui transcende le temps, c'est une œuvre qui transcende, qui dépasse ce qu'on peut penser, imaginer, parce que c'est l'œuvre de Christ qui s'imprègne en nous pour que nous puissions toujours nous attacher à lui. C'est s'attacher à Dieu qui fait la différence. Parce que, évidemment, on a vite fait de vouloir se tourner vers d'autres dieux lorsque ça va mal. Mais c'est bien évidemment pas ce qu'il faut faire. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Naomi va rentrer, vous savez, vous connaissez ces textes. Si vous ne le connaissez pas, lisez le livre de Ruth. C'est un livre qui se lit rapidement. Va se poser cette question, et Ruth, vous savez, va faire quelque chose, elle a de suite compris. Vous savez, il y a des personnes qui comprennent. Il y a des personnes qui, malgré ce qui se passe, comprennent qu'il faut s'attacher à Dieu. Malgré le temps, et je vais le répéter peut-être, excusez-moi, le temps d'apostasie, du temps des juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, où les pasteurs ne faisaient pas leur travail, leur rôle, où peut-être ils n'avaient pas l'enseignement qu'ils auraient aimé avoir. Ruth, elle, a compris. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Le temps d'avoir pitié est là, était fixé. Ruth va prendre à cœur le travail et va aller glaner dans un champ. C'est le chapitre 2 qui nous dit cela. Et vous savez, ça m'a fait réfléchir, cette histoire de champ. Alors bien sûr, sans outrepasser l'Écriture, sans sortir un verset de son contexte, quand même l'apôtre Paul va dire « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et il y a ce texte dans Ésaïe 61 qui vient marquer cette réalité. Parce que la restauration est là, vous connaissez ce texte aussi bien que moi. Il y a cette volonté de Dieu de construire, de rebâtir son peuple, de venir bénir, parce qu'il y a quand même une finalité, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il en est de l'œuvre de Dieu lorsque ça va mal? Qu'est-ce qu'il en est de mon propre témoignage quand les nuages sont là? Quand il semblerait que je n'arrive plus à rien. Qu'est-ce qu'il en est de l'Église, lorsque autour de moi, tout semble s'effondrer? Qu'est-ce qu'il en est de la communion fraternelle? Qu'est-ce qu'il en est de ma sœur, de mon frère? Est-ce que ce qu'il traverse, c'est sa faute, ça le regarde s'il va mal, ou je me sens un petit peu concerné par son mal-être, par ses épreuves? Qu'est-ce qu'il en est de cette plantation de l'Éternel, nous, qui sommes là pour servir à sa gloire? Est-ce que c'est seulement dans les textes pour faire sortir une poésie inspirée par l'Esprit de Dieu que le prophète a voulu marquer, ou c'est quelque chose qui vient bouleverser notre être, une réalité spirituelle qui ressort? Quand tout va mal, moi j'ai quand même envie d'aller travailler dans le champ de Dieu. Quand tout va mal, j'ai quand même envie de m'attacher à l'Église. Quand ça va mal autour de moi, quand il semblerait que le temps de Dieu ne soit pas mon propre temps, j'ai quand même envie de m'attacher à sa parole. Et Ruth, elle, elle a compris cela. Ruth, il y avait ce travail qui était là dans son cœur. Bien sûr, c'était pour survivre, c'était pour manger. Mais il y a une notion spirituelle. Et nous, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que j'ai envie de tout arrêter? Est-ce que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui fait que je vais arrêter d'essayer de marcher avec le Seigneur, arrêter de marcher sur ce chemin du calvaire pour porter ma croix, parce que finalement être disciple, c'est quelque chose qui me dépasse et qui me fait trop souffrir. On ne voit pas Dieu. Ruth, Naomi, pensait être tellement loin de Dieu, pensait tellement, être tellement loin de la préoccupation même de Dieu. Leur vie, leur quotidien semblait être tellement loin de ce que Dieu espérait. Pourtant, Dieu était là et agissait. Pourtant, Dieu a marqué ce temps en disant « Mais c'est le moment où j'ai eu pitié, où ma compassion veut se déverser dans leur vie. » Et vous savez, Naomi aurait pu dire « Mais je vais rester Mara toute ma vie. » L'amertume dans mon âme, parce que j'ai trop souffert. Ruth aurait pu dire, écoute Naomi, je t'ai accompagné jusqu'à ton pays, maintenant je vais faire ma vie. Maintenant ton Dieu, ça ne va pas être mon Dieu parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est parce qu'elles ont fait, ce n'est pas du tout ce qu'elles ont fait. Et il y a ce verset qui peut résumer la vie, j'allais dire. Le cœur de Ruth, c'est ce verset 12 du chapitre 2. On ne peut pas tout voir, bien sûr, vous vous doutez bien. Lisez ce livre. Parce que Ruth va aller glaner dans un champ dont le propriétaire était de la famille d'Élimélec, le mari de Naomi. Et le verset 12 de ce chapitre 2 nous dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et regardez ce qui est dit sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Est-ce que ça ne rassure pas nos cœurs, frères et sœurs, ce soir, de savoir qu'on peut être dans un temps difficile? Je le rappelle au cas où. C'était du temps des juges. C'était pas la Pentecôte. C'était pas le réveil, c'était du temps des juges. Il y a eu le deuil, il y a eu la tristesse, il y a eu l'incompréhension. Est-ce que ça rassure pas de savoir que même dans ces circonstances-là, même si nous vivons des épreuves, même si nous sommes dans des temps difficiles où l'apostasie règne, est-ce que ça ne rassure pas de savoir que nous pouvons toujours aller nous réfugier sous les ailes de Dieu? Est-ce que ça ne réchauffe pas notre cœur d'une manière spirituelle de savoir que Dieu veut toujours nous accueillir? Que Dieu se soucie de ce qu'on peut vivre? Que Dieu ne n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il puisse avoir accès à notre cœur pour nous bénir, pour répandre sa grâce, parce que ce n'est pas l'amertume dans l'âme qu'il veut que nous puissions évoluer, marcher chaque jour, mais c'est avec la grâce de Dieu que chaque jour il veut que nous puissions marcher. Les ailes de notre Dieu sont toujours là, sa protection est toujours là, frères et sœurs, son amour n'a pas changé, est toujours là. On voit rien, on n'entend peut-être rien, on ne ressent rien. Il semblerait même que ça aille que ça aille pas en s'améliorant. Il semblerait que c'est la dégringolade même. Mais Dieu est là. Sa protection est toujours là. Ruth avait cet attachement, cette détermination pour sa propre vie, pour la vie de Naomi, pour les siens, de se dire, mais la seule chose qui peut me sauver, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas ce que je peux faire, ce n'est pas comment je suis, ma richesse, ma pauvreté, c'est mon attachement, c'est ma détermination, c'est ma soumission et c'est son obéissance qui a fait la différence. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de la protection de Dieu. Il y a beaucoup de textes qui nous invitent à courir vers notre Seigneur pour recevoir sa bénédiction, mais pas seulement sa protection. Sa protection qui ne dépend pas des circonstances. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Qui connaît le nom du Seigneur? Qui connaît Jésus-Christ ce soir? Qui connaît véritablement cette œuvre à la croix que Jésus-Christ a accomplie pour que nous puissions être dans le repos, pour que nous puissions être dans cette protection que Dieu veut nous offrir? Combien est précieuse ta bonté, ô Éternel! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. C'était le psaume 36, le psaume 91 que nous connaissons tous, si je puis dire. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Frères et sœurs, s'il y a des temps compliqués, il y a aussi des temps où nous pouvons être protégés de Dieu. Il y a aussi des temps où le Seigneur veut manifester sa miséricorde, sa pitié, son amour à notre égard. Le temps est fixé, le temps fixé est à son terme. Et peut-être que quelqu'un ce soir avait besoin d'entendre une parole comme celle-ci. Ou ce soir, aujourd'hui, vous pouvez peut-être repartir en disant « Mais c'est vrai, peut-être que par la foi, je peux dire « Mais aujourd'hui ». Aujourd'hui, le Seigneur veut que je puisse saisir ces mots, le temps d'avoir pitié, le temps fixé est à son terme. Et je terminerai, parce que quand même, je l'ai dit, peut-être je l'ai répété, du temps des juges, c'était pas le meilleur moment peut-être, mais ça n'a pas été un problème. Ça a mal commencé par un deuil, trois deuils, par de la tristesse, mais ça va quand même bien finir. Ruth, ou du moins Boaz, va prendre Ruth pour femme. Vous savez qu'ils vont avoir un enfant ensemble et ça va être l'ancêtre de David. Ruth se retrouve dans la généalogie de notre Sauveur. C'est extraordinaire, ça nous dépasse. Il y a comme ça des temps qui sont marqués, une bénédiction possible. Mais également, il y a des moments où on doit faire des choix, vous savez. Et je ne pouvais pas finir ce message sans vous parler d'une personne qui n'est même pas mentionnée par son prénom, par son nom, mais une personne qui a refusé cela. Parce qu'il y a quand même un positionnement qui peut faire que nous refusions cela. Au moment où Boaz va se présenter pour pouvoir prendre Ruth, pour racheter, pour continuer, vous savez, il y avait une loi pour que la honte ne demeure pas sur cette famille. Il va réunir les anciens et l'homme qui avait le droit de rachat avant lui va se présenter. On a toujours le choix, frères et sœurs. On a toujours le choix de suivre Christ, bien évidemment. Mais on a toujours le choix de vivre dans cette foi, dans cette confiance. On a le choix d'écouter Dieu ou de ne pas l'écouter. On a le droit de refuser la consolation. Rachel pleure, elle n'a pas voulu être consolée. On a le choix de refuser ce que Dieu veut faire en nous, par son esprit, dans notre vie. On a le choix. Et alors que cet homme était prioritaire, on aurait pu croire, et bien sûr, vous allez me dire, ça a été conduit de Dieu, bien évidemment. Mais cet homme aurait pu quand même vivre la bénédiction, cet homme aurait pu se saisir de cela exercer miséricorde. Mais voilà ce qu'il va dire, c'est Ruth 4, chapitre 4, verset 6. Cet homme va dire quelque chose qui peut être terrible, parce que bien souvent nous pouvons être enclins à dire les mêmes choses que lui. Cet homme va dire « Je ne puis pas racheter pour mon compte, par crainte, crainte de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » D'autres versions vont dire « Pour détruire ma possession, de peur que je ne dissipe mon héritage. » Frères et sœurs, est-ce qu'on a été tenté une fois de dire cela? Quel est notre héritage? Qu'est-ce qui doit marquer notre vie? Quelle est la place de la croix dans notre existence? Quelle est la place du sacrifice de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons un meilleur héritage pour refuser ce que Dieu veut faire en nous? Est-ce qu'il y a un meilleur héritage pour dire au Seigneur, « Non, je n'ai pas envie de dissiper ce que j'ai en moi. Je n'ai pas envie de perdre ce que j'ai pour te suivre. » On a chanté un beau chant, plusieurs beaux chants, un chant qui exprimait ces réalités-là. Mais peut-être que quelquefois on chante avec légèreté. Qui ce soir va dire « Seigneur, non, ce n'est pas mon héritage qui m'importe, ce n'est pas ce que j'ai, mais c'est toi. » Qui ce soir va dire « Seigneur, j'accepte ton temps. J'accepte que même si je ne vois rien, même si je ne comprends pas, j'accepte de toujours m'attacher à toi, de toujours m'attacher à ta croix. » Parce que c'est cela notre héritage. C'est cela notre vie. Notre vie, ici-bas, c'est une vie de pèlerin, de voyageur. Notre héritage, il est céleste, il est en haut. Ne courons pas le risque de refuser ce que Christ veut faire en nous, par peur de perdre quelque chose. Parce que je crois que Jésus-Christ a dit quelque chose par rapport à celui qui avait peur, qui voulait gagner le monde. Frères et sœurs, la bénédiction est possible, bien sûr, dans l'obéissance. On aurait pu partager beaucoup de choses sur Ruth, sur ce qu'elle a fait, son attachement. Je ne veux pas parler de bénédiction comme cela. Bien sûr, Dieu nous aime, mais la bénédiction est dans l'obéissance, mes frères et sœurs, même si nous ne voyons rien, même si on ne ressent rien, il y a un moment donné où le temps est fixé pour que Dieu manifeste sa miséricorde. Gardons courage, persévérons, attachons-nous, travaillons dans le champ, travaillons pour nous édifier ensemble, travaillons pour l'Église, pour l'évangélisation, faisons ce que Dieu nous demande dans les visites, dans les coups de téléphone, je ne sais pas. Mais travaillons pour que nous puissions être bénis du Seigneur, parce que, bien sûr, vous le savez, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on fait un pas, le Seigneur, après, il fait le reste. Amen. On peut prier le Seigneur un instant? Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ces réalités que tu ramènes devant notre cœur, devant notre âme. Nous voulons les méditer, réfléchir à cela. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des moments compliqués. Il y a des temps que nous ne comprenons pas. Seigneur, le temps que nous vivons est ce temps qui est comparable à celui des juges, mais nous croyons que malgré cela, Seigneur, nous pouvons être bénis de toi. Nous pouvons recevoir ce que tu veux nous donner. Nous pouvons être au bénéfice de ta grâce. Nous ne voulons pas changer notre identité. Seigneur, nous sommes tes enfants. Et ce soir, Père, je te prie, si dans ce lieu il y a une personne qui ne te connaît pas, qui ne t'a pas accepté, qui a refusé la croix, que ce soit un moment où elle puisse revenir vers toi, venir à tes pieds et te demander pardon pour ses péchés, afin de rentrer dans ce plan de grâce, de bénédiction, où malgré tout ce que nous pouvons vivre, nous serons assurés que le temps est fixé pour que tu aies pitié et compassion de nous, pour que tu puisses nous relever. Seigneur, tu te soucies de nous, et je te bénis pour cela. Bénis mes frères, bénis mes sœurs ce soir. Ensemble, Seigneur, nous voulons travailler dans ce champ que tu as prévu, nous édifier. Nous voulons, Seigneur, te glorifier dans tout ce que nous pouvons faire. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus-Christ, pour l'œuvre de ta croix. Merci, Père. À toi soit toute la gloire. Amen.